Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6. Alors aujourd'hui, on est le premier dimanche du mois. Nous allons tout à l'heure célébrer la table du Seigneur. Nous allons nous souvenir du sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix du calvaire. Et nous voulons considérer cela, mais aussi nous considérer par rapport à ce sacrifice de Jésus-Christ. On va d'abord lire tout le chapitre. C'est un chapitre extrêmement important de la Bible. Il est très dense, il est évident que nous n'allons pas traiter de tout ce qui se trouve dans ce chapitre. Mais au moins, juste un petit résumé peut-être, quitte à revenir plusieurs fois sur toutes ces vérités qui sont enseignées ici. Mais c'est un chapitre que le croyant doit connaître. Et peut-être même c'est un chapitre qui serait bien que nous mémorisions, parce qu'il est très important. Que dirons-nous donc, verset 1 ? Donc cela a rapport avec ce qui est dit avant. Mais dit, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté et de l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors ? des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te demandons que tu nous conduises dans ta parole par ton Esprit Saint, que tu nous soumettes à cette parole, que tu nous donnes d'obéir à ta parole, que tu suscites en nous ce désir de nous incliner et de nous soumettre à toute la vérité de ta parole. Nous te remercions parce que tu dis que tu donnes la sagesse à celui qui n'en a pas sans reproche. Nous en avons besoin pour saisir les choses qui viennent de toi et aussi pour les mettre en pratique. Nous te prions que tu agisses au-dedans de nos cœurs pour notre bien et pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, quand on lit ce chapitre, on voit à quel point il est dense, hein, et que presque chaque phrase de l'apôtre Paul ici demande que l'on s'arrête et que l'on médite ces choses. Mais ce qu'on veut faire ce matin, c'est vraiment de considérer quelques versets de ce passage en rapport avec le sacrifice de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc j'ai intitulé ce message « Le sacrifice de Christ pour nous et notre vie pour Christ ». Le sacrifice de Christ pour nous et notre vie pour Christ. Quand on lit le chapitre 5, l'apôtre Paul parle tous les chapitres avant et termine vers le chapitre 5 avec la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ, la grâce, par la grâce seule au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et à la fin de ce chapitre, il fait quelque chose qui est comme un peu un résumé de tout cela, où il met de manière juxtaposée Adam et Jésus-Christ. Et puis, il parle de la condamnation que l'on a à cause du péché, et il dit que cela vient par Adam. Et puis, il parle de la justification que l'on peut avoir, il dit que cela vient par Jésus-Christ. Et il dit que tous les hommes en Adam sont pécheurs, sont condamnés à cause du péché d'Adam, c'est ce qu'il dit. Et puis, il dit, et de même, ceux qui sont sauvés ne le sont que par l'obéissance de Jésus-Christ. Si vous regardez à partir du verset 17 du chapitre 5, il dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » C'est comme s'il présente Adam tout seul et Jésus tout seul. Au début, hein, il avait déjà dit qu'Adam est une figure de celui, au verset 14, une figure de celui qui devait venir. Je saute au verset 18, il dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Un seul homme, péché, la condamnation s'est étendue sur tous. Et il dit de même, par un seul acte de justice, la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance, verset 19, d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est fort ce que Paul dit ici. Hein. Il dit que la question du salut, c'est la question que l'on est condamné à cause du péché d'Adam, mais que l'on est justifié, pas à cause de notre obéissance, mais à cause de l'obéissance de Jésus-Christ. C'est pas à cause de nos œuvres, c'est à cause de l'œuvre qu'a accomplie Jésus-Christ. Et Quelque part, c'est comme s'il dit Adam et Jésus-Christ. Et puis on dit oui, mais entre les deux, il s'est passé quand même des choses. Hein. Et le verset 20 dit, il répond à cela, il dit, or la loi est intervenue, et la loi c'est Moïse. Hein. Donc entre Adam et Jésus-Christ, il y a eu toute l'époque de la loi et des prophètes. Il dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, afin de révéler vraiment le péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 7, hein, il dit avant que la loi dit « tu ne convoiteras point », ben, je ne savais pas. Et donc la loi a mis en évidence, a révélé, hein, comme en photographie, le péché. Il a dit, donc il dit « or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché, et ça on connaît ça tellement on l'a récité, je pense qu'on connaît ce verset par cœur, hein, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce par la justice règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on arrive là à un point où, un point de bascule presque, à une espèce d'extrémité logique qui donne toute la raison du chapitre 6 et des chapitres 7 et même 8 qui viennent derrière. C'est-à-dire que Paul dit quelque chose ici qui est profondément renversant. Il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi est intervenue pour que le péché croisse et puis qu'il soit pleinement révélé. Et puis là où ça a été pleinement révélé, la grâce est passé par-dessus cela. Aussi loin, aussi haut que le péché puisse s'élever, la grâce de Dieu est infiniment au-dessus de tout cela. Et le pas logique qu'on est tenté de faire après, c'est la question de Paul. C'est la question de Paul au chapitre 6. Il dit, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Il est en train de dire, mais il y a un danger ici. Il soulève quelque chose qui, on ne sait pas si la question lui a été posée, ou si c'est quelque chose de polémique, ou si c'est simplement pédagogique, mais en tout cas, il soulève par une question un raisonnement que l'on peut avoir, qui consiste à dire, mais puisque là où le péché abonde, la grâce surabonde, faisons surabonder la grâce. En faisant quoi ? En péchant. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent ça. De toute façon, on a déjà entendu, hein, nous sommes sous la grâce. Et puis plus loin, il dit, je crois qu'on l'a lu hein, au verset 13, il dit, quoi donc pécherions-nous, 15, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Et je connais des personnes qui disent, moi, bon, c'est vrai, je pêche. Mais on est sauvé comment? Par grâce. Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu intervient comme un parapluie que l'on ouvre sur notre péché. Oui, je sais, j'ai péché, mais heureusement, il y a la grâce de Dieu. Après tout, nous sommes des pécheurs. Et donc, c'est presque, je vais dire, un pas, et certains disent que c'est un pas presque logique qu'on pourrait faire. Évidemment, si là où le péché abonde, la grâce surabonde, finalement, je n'ai pas besoin d'avoir peur de péché, puisque la grâce va toujours surabonder et couvrir cela. Et donc, Paul pose cette question. Et puis, quelqu'un disait que c'est naturel pour nous aussi, et c'est vrai, hein, de penser comme ça, parce que naturellement, nous sommes attirés vers quoi ? Vers le péché. Notre vieille nature pour le chrétien est toujours là, et elle a tendance à toujours choisir ce qui est le plus naturel. C'est-à-dire le péché. J'ai même lu qu'il y a des gens qui disent que puisque Dieu est un Dieu de grâce, qui aime faire abonder sa grâce, c'est presque lui donner des opportunités d'abonder en grâce que de pécher. Parce que là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Surabonde. Alors parfois, on ne le dit pas forcément, mais on peut avoir un type de vie qui est, selon ce que Paul dit, dit ici. On ne se pose pas forcément la question du péché. Alors Paul dit, que dirons-nous donc, après avoir affirmé que là où la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, il dit, que dirons-nous donc? Pécherions-nous, demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Et il répond à la question avec une vigueur extrême. Il dit, loin de là, pas du tout, absolument pas. Et j'ai lu dans une traduction, je crois que c'est la Nouvelle Bible Second qui dit, jamais de la vie, comme on dit en français. Ils ont traduit comme ça, ce loin de là. C'est ce que Paul dit. Il dit, non, jamais Dieu ne permettra cela. Il ne faut jamais comprendre cela. C'est même impensable. C'est inconcevable de penser que parce que la grâce de Dieu surabonde, eh bien, on a ici un prétexte pour pécher. Il dit donc, loin de là, et on pourrait se dire, oui, mais pourquoi? Et quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'on, puisque là où le péché abondait, la grâce surabonde, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Alors, il donne la raison, verset 2, regardez, il dit, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Et il pose, il fait une affirmation sous une forme de question. Hein? « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Donc, sa réponse, c'est quoi? Ça consiste à dire, les morts ne pêchent pas. Les morts ne pêchent pas. Et c'est vrai. Physiquement, mais c'est vrai aussi spirituellement, c'est ce qu'il veut dire. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il dit, on ne peut pas être à la fois, il y a un problème logique là, on ne peut pas être à la fois mort à quelque chose et vivant à cette chose. Si on est mort à la vie là, d'accord, on est mort, on n'est pas vivant. De même, si on est mort à quelque chose, on n'est pas vivant en même temps à cette chose. Alors il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et donc, ce que Paul souligne, et c'est ça que je voulais souligner ce matin, c'est qu'il y a des réalités spirituelles à saisir. Et c'est ça qui doit animer, en tout cas occuper, le croyant. Il y a des réalités spirituelles à saisir. Et la première réalité ici qu'il souligne, c'est que le sacrifice de Christ produit la justification, mais aussi la sanctification. Le sacrifice de Christ à la croix, que nous allons célébrer tout à l'heure, produit la justification. C'est certes, on est justifié par le sacrifice de Jésus-Christ, par la grâce, par la foi, dans le sacrifice qui a été accompli par Jésus-Christ. Mais cela produit aussi la sanctification. Et tout ce qu'il va dire après dans le chapitre 6, c'est pour montrer cela. Et c'est pour ça qu'on trouve à la fois péché, la mort et la vie. Il parle beaucoup de la vie, le fait de vivre. Comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est-à-dire que donc, puisqu'on est, il y a une réalité qui concerne le sacrifice de Christ, cela doit impliquer un type de vie particulier, un type de vie spécifique. Et donc l'évangile, on pourrait dire ici, de la grâce n'engendre jamais le péché ou ne sert jamais de prétexte à pécher. Loin de là, dit l'apôtre Paul, hein, il a en horreur cette idée, et il montre que l'évangile de la grâce n'engendre jamais le péché, parce que Christ, par sa mort et sa résurrection, procure aux croyants le fait d'être sauvé, d'être justifié devant Dieu, mais aussi produit dans la vie du croyant la sanctification. Premièrement, le chrétien est mort au péché. Ça, c'est une grande vérité que l'on doit méditer. Le croyant, c'est un être qui est mort au péché. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dans quel sens est-ce que les chrétiens sont morts au péché? Il y a plusieurs passages qui le disent, hein, en plus que nous sommes morts au péché. Hein. L'apôtre Pierre, on avait vu ce passage dans 1 Pierre 2, 24, dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, afin que, mort au péché, c'est-à-dire nous, et mort au pluriel, donc ça veut dire nous les hommes, mort au péché, nous vivions pour la justice. Hein. » 1 Pierre 2, 24. Christ a porté nos péchés sur le bois, et quelle est la conséquence de ce sacrifice de Christ? Eh bien, c'est que nous-mêmes, nous sommes donc morts au péché aussi. Et donc, dans Galates 2, 19, on trouve aussi ces vérités-là. Maintenant, Romains chapitre 7, verset 3, verset 6, hein, il est question d'être mis à mort, parfois en ce qui concerne la loi, et être dégagé de la loi en étant mort à la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'apôtre Paul dit qu'on est mort au péché, il veut dire qu'on est délivré de l'emprise du péché. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne pêche pas. Quelqu'un disait, ça ne veut pas dire que le péché est mort en lui d'une certaine manière, mais que le péché est toujours là, le péché est toujours sollicitant pour le croyant, mais il n'est plus sous l'emprise du péché. Il est dégagé du pouvoir du péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Hein. Le péché n'aura donc plus de pouvoir dans votre corps. Il ne dit pas que le péché n'est plus présent. Il ne dit pas que le chrétien ne péchera plus. Il dit qu'il doit savoir qu'il est comme celui qui est mort à quelque chose. Cette chose n'a plus de pouvoir sur lui. Et c'est une réalité qu'il doit vraiment saisir et chercher à comprendre. Il ne s'agit pas de ne jamais pécher. Le chrétien tombe, malheureusement, occasionnellement dans le péché. La Bible dit même que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous sommes des menteurs. On se trompe parce qu'on pêche. Mais on ne vit pas dans le péché. On va essayer de voir ça un peu plus tard. Donc la différence entre le chrétien qui pêche et le non-chrétien qui pêche, c'est quoi? C'est que le non-chrétien pêche par obligation, parce qu'il est sous la domination du péché, mais le chrétien pêche par choix, parce que Dieu l'a délivré du pouvoir du péché. C'est une différence ici. Quand il pêche, il le sait. Il choisit, il entend la parole qui lui dit qu'il ne doit pas le faire. Il le fait, il choisit de le faire. Alors qu'il n'en est plus, il n'est pas esclave du péché. Parce que l'apôtre Paul, on a lu dans le texte, il dit que vous êtes devenu esclave de Christ. Donc quand le chrétien pêche, il pêche par un choix. Parce qu'il a la puissance de Dieu pour ne pas succomber au péché. Et donc Paul explique cela, hein, le sacrifice de Christ procure la justification, aussi la sanctification. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui est mort au péché dans le sens où le péché il n'a plus de pouvoir sur lui. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est important de considérer cette vérité. Quand je suis tenté, je dois penser en tant qu'enfant de Dieu. Je suis mort. L'apôtre Paul le dit au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme quoi? Comme mort au péché. Je suis mort au péché. D'accord? Ça doit être quelque chose qui trotte dans l'esprit. Deuxième chose, deuxième réalité ici, on peut voir que la croissance dans la sanctification ici, passe par la connaissance de la position que l'on a en Jésus-Christ. Paul ne dit pas, vous devez sentir que vous êtes à Christ, que vous êtes mort au péché. Il ne dit pas ça. Il dit, vous devez le savoir. Vous devez penser à cela. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est en Jésus-Christ. Pardon, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il dit d'abord, ignorez-vous, ne savez-vous pas, l'apôtre Paul dit ça souvent, hein, si vous vous rappelez, ne savez-vous pas que, ignorez-vous. Il parle à des chrétiens qui sont à où ici? À Rome. Est-ce qu'il était déjà allé à Rome à ce moment-là? Non, si vous lisez le début, Il dit, le chapitre 1, il dit, je forme le projet d'aller vous voir, j'ai un vif désir d'aller vous voir. Et même au chapitre 15 et au verset 24, il exprime qu'il espère les voir. Verset 24, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. Il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Mais il présume qu'ils doivent savoir cette vérité, qu'ils sont morts au péché et que lorsqu'ils ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort qu'ils ont été baptisés. C'est-à-dire que c'est un enseignement qu'ils ont dû recevoir. Ils ne peuvent pas avoir vécu une vie d'église sans avoir entendu cela, sans avoir été enseignés dans cette vérité. Si c'est le cas, c'est que le pasteur, il a failli dans son enseignement. Ou que on n'a pas été attentif à ce qui nous a été enseigné. Ou qu'on n'a pas suffisamment lu ce que l'Écriture dit. Mais l'apôtre Paul présume que ce dont on a besoin en premier, c'est de savoir, de connaître la réalité de la position que l'on a en vertu du sacrifice de Jésus-Christ qui a été accompli à la croix du calvaire. Christ est mort, vous avez été unis à lui dans sa mort, il dit dans sa résurrection. Alors, ça veut dire que vous êtes mort au péché. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Si vous ne savez pas ça, vous êtes à la merci de toutes les erreurs, de toutes les doctrines hérétiques et puis de la vie de péché. Et il est en train de dire que lorsqu'on pêche, alors qu'on ne devrait pas le faire, il y a probablement un défaut de connaissance et de méditation de la vérité de la parole de Dieu. Ignorez-vous ça ? Regardez au verset 9, il dit « Sachant que Christ, or, verset 8, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Vous voyez donc, il dit « S'il y a cette réalité-là, nous devons croire certaines choses. » Et puis il ajoute verset 9, « Sachant que, encore une fois, c'est cognitif, il faut connaître ces choses, il faut les savoir, il faut y avoir pensé, il faut les avoir médité, parce que la croissance de la sanctification ne passe pas par ce que je ressens, mais par ce que je sais de la parole de Dieu. Et ce que je sais est extrêmement important pour ma marche chrétienne, pour notre marche chrétienne. Ignorez-vous, dit Paul, que nous tous qui avons été baptisé en Jésus-Christ. Alors, on ne va pas développer cette question du baptême ici, mais seulement il utilise l'expression pour parler de l'unité que l'on a, l'union que l'on a ici avec Christ. Et il dit, ce n'est pas juste on a été baptisé en Jésus-Christ, on est unis à lui, mais il dit, vous êtes unis à Christ dans sa mort. Et ça veut dire que de même que Christ, au verset 10, il dit de même que Christ est mort au péché, eh bien, vous aussi, vous êtes mort au péché. Vous êtes bénéficiaire de tous les avantages, tous les aspects de la mort de Christ. Vous êtes une. Quand il est mort, eh bien vous êtes mort aussi avec lui. Il est mort au péché et vous aussi vous êtes mort au péché. Et l'apôtre plus loin dans d'autres passages, il parlera aussi que nous sommes ressuscités aussi avec Christ. Donc c'est des réalités qu'il faut garder, que ce qui s'est produit pour Christ se produit aussi pour le croyant. Et si Christ est mort, il est mort pour nos péchés, mais il est mort aussi au péché, eh bien, nous aussi, nous devons considérer qu'il a accompli pour nous cette réalité. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Le texte ne dit pas que c'est quelque chose que l'on doit faire. Il dit que c'est quelque chose qui a été fait lorsque Christ a offert sa vie en sacrifice. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 6, sachant, voyez encore une autre fois, il faut savoir, hein, on peut pas, il faut encore savoir ces choses, que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Il faut savoir ça. Et il souligne donc l'apôtre Paul que notre grand problème dans le péché, c'est le manque de connaissance des vérités et des réalités qui ont été accomplies par le sacrifice de Jésus-Christ. De Corinthiens 5, 14 dit, si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Donc, cela nous appelle, lorsque nous considérons le sacrifice de Christ, à penser, je suis mort en tant qu'enfant de Dieu. Je suis mort au péché. C'est ce qu'il dit au verset 11. À se regarder vraiment dans cet état-là, celui qui est mort au péché. Et puis, troisième réalité que je voudrais souligner ici, dans ce passage, on fait un résumé, on ne rentre pas dans les détails, je vous l'ai dit, hein, mais il dit « la mort au péché implique la marche dans la sainteté ». On pourrait dire aussi que le fait d'être au bénéfice de la grâce abondante de Dieu implique la marche dans la sainteté. Peut-être mieux dit comme ça. Le fait d'être au bénéfice de la grâce abondante de Dieu implique non pas de péché, mais de marcher dans la sainteté. Et donc Paul développe ça, il dit au verset 3, il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Verset 4, il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Donc on a été mis en terre, enterré, on est disparu, comme ça il y a un détachement, il n'y a plus de pouvoir des choses extérieures sur nous, c'est ça que ça veut dire un peu. Et il dit ici, « Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. » Au verset 5, il dit une chose, il dit que nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Et nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Un jour nous serons, la Bible dit déjà que nous sommes ressuscités avec Christ dans Colossiens, nous sommes assis dans les lieux célestes, etc. Mais un jour, notre corps aussi, quand on sera mort, va ressusciter. Nous attendons, l'apôtre Paul dit, la rédemption de notre corps. Ça, c'est quelque chose qui est futur. Mais au verset 4, Paul dit quand même quelque chose concernant la résurrection de Christ. Il dit que la résurrection de Jésus-Christ, sa résurrection des morts par la gloire du Père, conduit à une marche présente du chrétien dans une nouveauté de vie. Il y aura un aspect futur où le corps va ressusciter, où nous serons esprit, âme et corps complètement régénérés avec Christ dans la gloire. Mais il dit, en attendant, la résurrection de Christ a un effet. Vous êtes mort avec Christ. Et sa résurrection procure quelque chose dans votre vie présente. Elle procure une marche dans la sainteté. C'est ce qu'il dit au verset 4. Nous aussi, afin que nous aussi, il est ressuscité, afin que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, en une vie nouvelle, une vie qui est différente de celle que l'on avait avant que l'on connaisse Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la vie avant de connaître Jésus-Christ et la vie après que l'on connaisse Jésus-Christ, c'est le rapport que nous entretenons avec quoi ? Le péché. C'est ce que le texte dit ici. Que le texte ne parle que de ça. Que du rapport que l'on entretient avec le péché. C'est dans le rapport que l'on entretient avec le péché que l'on peut mesurer vraiment la réalité de notre salut en Jésus-Christ. Parce qu'un chrétien est mort au péché. Et ça veut dire que s'il continue à vivre dans le péché en prétendant être un enfant de Dieu comme il vivait avant, il y a un problème. Il faut qu'il se pose de sérieuses questions. Il faut qu'il revienne, qu'il se repente, qu'il demande pardon pour ces choses. L'union avec Christ dans sa mort implique donc que sa résurrection a un impact considérable dans la vie présente du croyant, dans sa manière de marcher. Il marche en nouveauté de vie. Et le verset 22 que nous avons lu exprime cela. Même le verset 19 déjà dit, je parle à la manière des hommes, regardez verset 19, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à quoi ? À la sainteté. Et puis au verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, c'est ça être mort au péché, c'est qu'on en est affranchi. Plus d'emprise, plus de pouvoir. Il dit, étant affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit quoi ? Qu'est-ce qu'on a pour fruit ? Une vie sainte. Une vie qui se détourne du péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché occasionnel. Mais c'est une vie dans laquelle on cherche constamment et constamment et constamment à se détourner du péché. Où on est sensibilisé à la question du péché. Où on se rend compte combien c'est une question sérieuse. Sérieuse. Quand on célèbre la table du Seigneur, on célèbre quelque chose qui est en rapport avec notre propre péché. C'est à cause de nous. C'est pour nous, c'est pour nos péchés qu'il a souffert. Et donc la question du péché est une question très sérieuse. Et Paul dit ici, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Il dit, voilà ce que produit la grâce abondante de Dieu. Elle ne pousse pas à pécher, au contraire, elle produit dans la vie du croyant la sainteté. Et l'apôtre Paul le dit ailleurs dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Tite, chapitre 2, vous pouvez regarder ce texte. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc j'attends encore des pages qui tournent, donc j'attends que vous trouviez. Tite chapitre 2, verset 11, je pense que j'ai bien mis la référence, Tite chapitre 2, verset 11, je relis, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce surabondante de Dieu, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. » Qu'est-ce que nous enseigne la grâce ? Le renoncement à la vie de péché, à l'impiété, et le fait de vivre selon la piété dans le siècle présent, selon la sagesse, selon la justice. C'est ça qu'elle nous enseigne. Donc, quand on prétend être au bénéfice de la grâce de Dieu, ce fruit, cette marche vers la sainteté doit être visible et doit être notre assurance aussi que cette grâce œuvre vraiment en nous. Parce que Paul dit, pécherions-nous pour que la grâce abonde ? Jamais de la vie. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Et ce n'est pas juste une question, c'est une affirmation. Il dit que celui qui est mort au péché ne peut pas vivre dans le péché. C'est ce qu'il dit ici, hein. C'est ce qu'il dit. C'est comme si une femme disait à son mari, puisque tu m'aimes, pourquoi tu ne m'invites jamais au restaurant ? Ce n'est pas une question à discuter qu'elle pose. C'est juste une question affirmation. Elle dit, si tu m'aimais vraiment, tu m'emmènerais. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et Paul dit, nous sommes morts au péché, pourquoi vivrions-nous encore dans le péché ? C'est impensable, c'est inconcevable. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais même vous dire que, en fait, vous avez été baptisé en Jésus-Christ et vous avez été baptisé en sa mort. C'est ce qu'il dit dans le verset ainsi. Hein. Et il dit que vous avez été enseveli avec lui pour marcher d'une manière digne de l'Évangile. Alors on voit bien ici, chers frères et sœurs, que la grâce abondante, même la grâce surabondante de Dieu, loin d'encourager à pécher, implique la vie de sainteté. Et que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, nous est donnée pour produire en nous cette vie de sainteté. C'est ce que dit 2 Pierre, chapitre 1, je crois, verset 3, où il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance qui est par Jésus-Christ. » Dieu nous donne sa divine puissance, cette même puissance qui a ressuscité Christ. C'est pour ça que Paul lit cette résurrection avec la marche nouvelle. Et je termine avec quelques conclusions pour ce passage. Premièrement, ce que l'on peut considérer quand on considère le sacrifice de Jésus-Christ ici, c'est que le chrétien a besoin vraiment de penser et de méditer les vérités avant de les ressentir dans sa vie. La vie chrétienne n'est pas une question de feeling, c'est d'abord une question de connaissance et de méditation des vérités qui sont révélées dans la parole de Dieu. Et particulièrement, cette vérité qui nous dit que le chrétien, c'est un être qui est mort au péché. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Dieu qui le dit. C'est comme ça qu'il le fait. Si quelqu'un est en Christ, il est, de fait, mort au péché. Et par conséquent, il doit vivre d'une manière conforme à cette réalité. Bien sûr, il va y aller de progrès en progrès, mais il doit vivre d'une manière qui est conforme à cette réalité. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 1, 12, 11, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. » Ça veut dire que ça n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on est un chrétien et que l'on sait que l'on est mort au péché que je n'ai pas d'effort à faire, ça va aller tout seul. Ça va couler comme, comme on dit ça, hein, comme de l'eau de source. Hein. Pas du tout. Ce n'est pas mécanique. D'accord ? Il dit, ça c'est la réalité. Maintenant, apprenez à méditer cette réalité et à vous regarder tel que vous êtes en Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. Apprenez à le faire. Passez du temps à réfléchir à ces choses. Et si on ne le fait pas, on n'aura pas de victoire dans notre vie. Ce sera toujours clopin, clopant ici. Il faut méditer les vérités avant qu'elles deviennent effectives aussi dans notre vie. Il faut étudier la parole. Il faut s'exposer à la parole. Pas simplement la lire, la méditer, l'étudier, s'exposer aux explications que l'on nous donne, poser des questions quand on n'a pas compris quelque chose. Parce qu'il est important de saisir ces choses. Dieu nous les a écrites. Elles sont là. Donc il faut, on ne peut pas progresser à moins de les connaître. Et je crois que c'est un prophète qui disait « Mon peuple périt faute de connaissance ». Quand il n'y a pas la connaissance de Dieu, il y a la perdition au bout. Et on n'est pas facilement, persuadé des choses, des vérités. Un commentateur puritain disait ceci, il dit qu'il y a deux grands problèmes dans le... J'ai entendu ça dans un message, il disait, il y a deux grands problèmes dans le ministère pastoral. Il dit, c'est de persuader quelqu'un qui est sous la domination du péché, qu'il est sous la domination du péché. Vous essayez de parler à un inconverti, souvent dans l'évangélisation, en lui disant qu'il est un pécheur, qu'il est... Vous êtes fou, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et c'est difficile. Et même de manière générale, c'est difficile de... Quand on est convaincu de quelque chose, c'est difficile de persuader parfois du contraire. Donc c'est c'est difficile. Il dit, c'est une œuvre qui est difficile. C'est pour ça que c'est l'Esprit de Dieu qui doit accomplir cela. Mais il dit, il y a un deuxième problème que l'on rencontre souvent, qui sont pour lui les deux problèmes majeurs hein, du ministère pastoral, c'est de persuader quelqu'un qui n'est plus sous la domination du péché, qu'il n'est effectivement plus sous la domination du péché. C'est-à-dire, on en est délivré, mais on vit comme si on n'était pas délivré. Et on n'arrive pas à saisir qu'on en est délivré, parce qu'on ne médite pas les vérités de la parole de Dieu. Et quelqu'un prenait l'image de l'esclavage. Quand certains esclaves ont été libérés, eh bien, il y avait des vieux esclaves qui ont vécu toute leur vie, ils n'ont connu que ça. La domination de maître, qui parfois était un maître cruel. Et lorsque l'esclavage a été aboli, que ces personnes sont devenues libres, elles ne se sentaient pas libres. Il fallait qu'elles apprennent à savoir avant de sentir. Quand elles étaient libres et qu'elles voyaient le maître passer, elles réagissaient comme auparavant. Et peut-être même, on disait que si le maître leur donnait un ordre, alors qu'ils n'avaient plus le droit de leur donner d'ordre, ils pouvaient dire « je n'obéis pas, parce que je suis libre ». Eh bien, ils obéissaient. Et c'est ce que Paul souligne. D'accord ? Le maître est toujours là, le péché est toujours là, on est toujours dans la présence du péché. Mais par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Christ accompli à la croix du Calvaire, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Vous n'êtes pas obligé de faire comme si vous étiez toujours esclave du péché. Vous pouvez dire non au péché. Mais pour le faire, il faut méditer ces vérités, que nous sommes morts au péché, que le péché n'a plus de pouvoir, l'apôtre Paul le dit plusieurs fois, n'a plus de pouvoir sur nous. Qu'avant, oui, nous étions esclaves du péché, mais maintenant nous sommes esclaves de Dieu et nous produisons la sainteté. Ces choses doivent être méditées et méditées et méditées pour qu'elles deviennent puissantes en notre esprit, qu'elles formatent notre pensée et qu'elles dirigent aussi par l'Esprit de Dieu, nos actions. Puis je voudrais dire aussi en guise de conclusion qu'il ne faut pas, il ne faut jamais présumer que la grâce de Dieu donne la permission de pécher. Parfois on ne le dit pas, mais on vit avec tellement facilement avec le péché que c'est comme si on disait je suis chrétien, mais sous la grâce de Dieu, mais bon, je sais bien que Dieu va me pardonner. Quelqu'un m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. Hein? Il faisait quelque chose qui était vraiment pas bien. Il me dit, je sais que c'est pas bien, mais je sais que Dieu va me pardonner. C'est-à-dire, on tire le parapluie de la grâce pour faire quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu. Donc on ne le dit pas ouvertement, mais on présume que puisque la grâce abonde, alors péchons, de manière à ce qu'elle abonde encore plus. On doit absolument éviter ce genre d'attitude, même si on ne le dit pas les paroles, mais ce genre d'attitude dans notre vie. Regardez comment nous vivons. Appelez un péché. Tout ce qui est péché doit être appelé péché. Alors, il y a des péchés qui sont plus gros que d'autres. D'accord, mais peu importe. Un péché, c'est un péché. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je fais? Comment je parle? Comment je réagis? Comment je pense d'un frère ou d'une sœur? Comment je suis avec mes enfants, ma femme, mon mari, etc. Ou un collègue de travail ou un voisin? Comment j'agis? Tout ce que je fais dans ma vie. Pas simplement ce que je dis, mais ce que je fais, la manière avec laquelle je fais quelque chose. Je parlais avec quelqu'un et je disais que parfois on peut dire quelque chose qui est vrai, mais avec une mauvaise manière de le faire. La mauvaise manière est un péché. Et il faut savoir se dire, nous sommes morts au péché, en tant qu'enfant de Dieu. Je ne peux pas dire même une vérité de cette manière-là. Je ne peux pas. Et donc, il faut que je me repente de cela et que je mette ça devant le Seigneur. C'est ça que ce texte attend de nous. Christ est mort pour nos péchés. On ne peut pas vivre dans le péché parce que nous aussi, nous sommes morts au péché. Et puis, je terminerai en disant que la question du péché est une question extrêmement sérieuse. On ne doit pas prendre vraiment à la légère. Ça rejoint un peu le point d'avant, mais on a trop souvent une attitude légère à propos du péché, parce qu'on ne se souvient pas de ce que Jésus est venu accomplir. 1 Jean 3, 5, 6 dit, « Or, vous le savez. » Encore une fois, la connaissance, voyez. 1 Jean 3, 5. « Vous le savez. Jésus apparut pour quoi ? Ôter les péchés. » L'apôtre Jean dit la même chose que Paul. Vous savez ça, je vous le dis. Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il ajoute, « Il n'y a point en lui de péché. » Verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. » C'est des paroles qui sont renversantes encore là. « Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Il est en train de dire que, attention, on ne va pas prendre la question du péché à la légère. Si dans ma vie, je vis dans le péché, c'est-à-dire, on ne parle pas de péché, je suis tombé dans le péché occasionnellement, tout le monde, nous tous, nous bronchons tous, l'apôtre Jacques dit, d'une manière ou d'une autre. Parfois on pêche avec la langue, parfois, mais on vient au Seigneur, on se repent. Mais quand continuellement je suis dans une même chose, mois après mois, année après année, il dit celui qui pêche, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire on peut se tromper en croyant qu'on l'a vu et qu'on l'a connu, alors qu'on ne l'a pas vu et on ne l'a pas connu. Autrement dit, il dit que notre vie est la jauge par laquelle on mesure réalité de notre foi en Jésus-Christ. Notre rapport au péché est la jauge par laquelle je mesure la réalité de ma foi en Jésus-Christ. On ne doit pas rigoler avec ces choses-là. On ne doit pas. L'apôtre Paul le dit clairement. On ne doit pas, l'Écriture nous le dit clairement, on ne doit pas rigoler avec la question du péché. La vie chrétienne, c'est une vie très sérieuse. C'est une vie de changement radical avec la vie du monde, dans laquelle le chrétien, en union avec Christ, médite, considère, comprend la réalité de sa position en Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui agit en lui, eh bien, il cherche une vie dans laquelle il se détourne du péché. Quiconque invoque le nom du Seigneur, que dit l'apôtre Paul en 2 Timothée 2,15, je crois, quiconque invoque le Seigneur, qu'il se détourne de l'iniquité. Quiconque invoque le Seigneur, qu'il se détourne de l'iniquité. Et il ajoute, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Que le Seigneur nous aide vraiment à considérer ces choses. Et si nous avons vu que dans notre vie, nous nous sommes laissés aller au péché, sans les... réglons les choses. Le Seigneur nous fait grâce. C'est un Dieu de grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a toujours la grâce de Dieu à laquelle nous pouvons venir pour demander pardon. Mais cette grâce de Dieu, quand elle agit, elle nous éloigne de plus en plus du péché. Elle ne nous permet pas de vivre davantage dans le péché, bien au contraire. Je relis pour clore ces paroles. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Et te demandons que tu nous conduise par elle, que tu nous soumettes à elle, que tu nous donnes un cœur pour l'aimer et pour la méditer, pour penser encore à ces choses concernant nous-mêmes et que nous puissions devenir ce que tu as fait de nous, la position dans laquelle tu nous as mis, Seigneur, que nous marchions de progrès en progrès. Et nous te remercions pour ton esprit que tu nous donnes et qui agit ainsi en nous. Nous te prions pour ceux ici qui ne te connaissent pas encore, Seigneur Dieu, que tu puisses accomplir en eux cette œuvre, et qui sont encore sous l'esclavage du péché. Seigneur, que tu puisses attirer leur cœur à toi, les sauver, que le sacrifice accompli à la croix du calvaire puisse être le leur aussi efficace pour eux, peut-être en ce jour même où nous parlons. Nous te prions d'agir par la grâce de ton nom et pour ta gloire. Amen.